pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un journal intime et politique au croisement de ces deux sphères au moment où elles ne peuvent plus s'éviter complètement, c'est-à-dire par exemple lors d'une année électorale. Chacun est alors sommé de penser un peu, de se positionner ou pas, au moins de participer aux discussions, de trouver un ou deux arguments, coup de gueule, ras-le-bol, une ou deux bonnes raisons de voter ou pas et pour qui. C'est l'année où se fâcher avec sa famille et ses amis, l'année où sortir du bois, l'année où se passionner pour un débat télé, l'année où rester dégoûté, l'année de tous les dangers quand même, aux États-Unis et ensuite en France. Celui qui tiendra le journal de cette année critique pour les pieds sur terre est un jeune homme, bientôt trentenaire. Il appartient à la génération dite Y ou en anglais Digital Native, né avec le numérique, qui n'a connu ni le sida, ni la guerre froide, ni le plein emploi. On les dit capricieux, paresseux, centrés sur leur liberté et leurs jeux vidéo, centrés aussi sur leur jeunesse. Ce garçon n'est rien de cela, c'est simplement un jeune homme en colère, ou du moins qui cherche à apaiser celle qu'il sent en lui. Il a choisi de tenir son journal de la France en colère justement, et il commence aujourd'hui, au plus près de chez lui, par nous raconter un dimanche d'anniversaire, celui de son grand-père, Harry Sorangis, jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture, par Mathieu Palin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai grandi à Harry-Sorangis, dans l'Essonne. Et j'ai passé mon enfance dehors, à jouer au foot. Il y avait des blancs, des noirs, des arabes. Je suis blond, ce qui m'a quand même épargné pas mal d'emmerdes avec les flics, les profs et en gros l'autorité. Jusqu'à ce que Ziad Ebouna meure dans un transformateur EDF, c'était en 2005. Je m'étais jamais posé la question de qui j'étais et d'où je venais. Mais après, avec mes sœurs, on savait. On était des jeunes de banlieue. Des émeutes ont éclaté et des hélicos passaient au-dessus de nos chambres. Sarkozy a promis de tout nettoyer au Karcher. Et moi, j'ai voté 2 ans plus tard. Ma seule motivation, c'était d'empêcher ce type d'entrer à l'Elysée. J'ai continué à voter après, mais... à reculons. Comment croire en ces types, dévorés par leur ego? La politique m'a dégoûté au point de me demander si ça valait la peine. Et à chaque fois, c'est le même cinéma. Je vote poussé par une espèce de bonne conscience qui me dit « Voilà, tu vois, c'est bien. T'es un bon citoyen. » Et en fait, quand je vois un meeting là à la télé, je regarde les visages des gens dans le public qui vibrent pour le mec en costume derrière son pupitre. Et je peux pas m'empêcher de les trouver flippants.
On s'installe où ? Ici ?
On peut se mettre là-bas ?
Ouais, ou là-bas.
Celui qui m'intrigue vraiment, c'est mon grand-père, Maurice, 85 ans.
Je sais pas comment ça se passe maintenant, mais moi, quand je travaillais, je donnais ma paye à mes parents.
Ça fait des années qu'il se plaint des Noirs et des Arabes. Alors quand je vois les bons scores du Front National, je me demande, est-ce qu'ils votent pour eux ?
Ils donnaient de l'argent.
Aujourd'hui, c'est son anniversaire, alors j'ai apporté une tarte.
Merci.
Tu veux peut-être un couteau, quelque chose ? Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Tu vois, moi, j'ai pas envie de voter, parce que je crois pas en aucun des hommes ou des femmes politiques qui sont déclarés candidats. Mais... je risque quand même de le faire parce que j'ai peur que ce soit le Front National qui passe.
Est-ce que ça serait pire ? Non, faut régler ce problème de l'immigration parce que c'est de pire en pire. Hein. Parce que les gens ont de plus en plus marre des burkinis et tout ça. Là. Avant, il y avait des Arabes, on n'entendait jamais parler de trucs comme ça. Brusquement, ça arrive, on se demande pourquoi. Alors on se demande si petit à petit, s'ils sont pas en train d'essayer de s'installer, tu vois. Je sais plus qui avait dit que la France, ça serait une deuxième Afrique. Et ça vient. Est-ce que tu veux, tous ces gens-là, ils ont la télé, maintenant ils voient comment ça se passe ici, ils ont qu'une envie, c'est de venir. Hein. Mets-toi à leur place. Eh oui.
Mmh.
Il faut qu'ils arrivent, parce qu'ils n'aient pas envie de partir de chez eux, mais ça ne s'est pas en train d'arriver. Hein.
Mais ils n'ont pas trop le choix, vu qu'il y a la guerre chez eux.
Ah oui. La guerre chez eux, il faudrait peut-être qu'ils essayent de se défendre. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais enfin, ce n'est pas une solution non plus de se barrer. Vraiment avoir envie de se barrer pour aller se noyer, surtout qu'ils sont quand même au courant qu'il y a plein de noyés, plein de...
Mais ils tentent quand même le coup.
Il faut vraiment avoir envie, hein, ça faut reconnaître. Hein. Mais ils espèrent qu'une fois en France, ça va être...
Tu penses qu'il faudrait les renvoyer à la frontière?
À quelle frontière tu vas les ramener? Mais de toute façon, le lendemain, ils sont revenus, alors... Il faut les faire charter et les parachuter au-dessus de chez eux, là-bas, hop, sans parachute. À Nice, là-bas, c'est la bagarre sans arrêt, hein, les mecs qui viennent d'Italie. Il les ramène à la frontière italienne et puis 2 heures après, il recommence. Tu peux rien faire. Hein. Il y en a, je sais pas combien, là, 1000 par jour là, qui sont arrivés là, en Italie. Là, bon, la pauvre Italie, ils font 3 ans. Ils sont submergés. Là. Ça arrive, ça arrive, ça arrive sans arrêt. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent pas les couler. Hein. C'est une solution, enfin. Mais tous ceux qui réussissent à passer, ils prennent la route, ils viennent à Calais. L'Irak, tout ça. Si tout ça, ça arrive en France, s'il y en a 20 millions qui arrivent, ça va changer quelque chose. Hein. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on fera?
Qu'est-ce qu'on fera?
On se fera virer. C'est nous qu'on s'en ira en Afrique. Eh ouais.
C'est terrible comme question, parce que je sais que c'est un mec bien. Il a tout fait pour moi et mes sœurs. Mais à force, je sais pas, il s'est laissé vieillir dans ce racisme pas virulent, franchouillard. J'essaie de le contredire, mais il est persuadé d'avoir raison. Et j'aimerais comprendre, et en même temps, j'espère ne pas l'entendre dire qu'il va voter Marine.
Et il y a beaucoup de gens qui vont voter qui ne savent pas vraiment pourquoi. Hein. Tu n'as plus envie de voter pour qui que ce soit, tu ne sais plus pour qui, tu ne sais plus qui croire. Tu vois, hein. Si les femmes vont voter pour Macron, il va y avoir 40% de femmes qui vont voter pour Macron. Tu vois.
Parce qu'il est beau gosse.
Voilà, donc ça ne veut rien dire non plus. Tu vois. C'est pas de la politique. De toute façon, tout ce qu'ils disent, il y a beaucoup de choses que tu sais pertinemment, c'est pas possible. Tu dis, ouais, je vais démanteler la jungle, mais il dit pas comment il va faire. Il y en a 10 000 là-bas à la jungle, ils savent pas quoi en faire. Hein. Les 10 000 mecs, ils vont se répandre dans la nature. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces 10 000 mecs là? Ça sent pire qu'avant. Ça, c'est des conneries. Hein. Ben, je peux en prendre 2 ou 3 hein, ici.
T'as la place ici?
Ah, ben, oui, j'ai la place, oui. Je peux même en prendre 20 hein, ici. Hein.
Et tu le ferais?
Hein? Merde.
Quand vous viviez à Villeneuve-Saint-Georges, est-ce que vous avez vu la ville changer au fil des années?
Bah oui. Alors là, on est parti un peu à cause de ça. Hein. Alors, entre 2002 et 2006, c'est là que ça a changé de plus en plus. Tu vois. Je veux pas passer pour un raciste, mais Villeneuve-Saint-Georges, c'est plus la France. Hein. Il y a plus d'étrangers que de Français là-bas, à Villeneuve-Saint-Georges. On est parti à cause de ça. C'est pour ça qu'on est venu là. Ça fait 10 ans qu'on est là, alors je regrette pas Villeneuve-Saint-Georges. Hein. Qu'on descendait en bas faire des courses, on n'était plus en France. Hein. Tous les magasins, c'était plus des trucs français, c'était des trucs qui vendaient leur bidoche qui tourne, là. Des cafés où il n'y avait rien que des bonhommes. Hein, tu vois. J'ai tout juste si on avait le droit de rentrer, nous, tu vois. Les... D'ailleurs, à Villeneuve-Saint-Georges, tout le monde est barré. Hein. D'ailleurs, nous, le pavillon, il a été acheté par un arabe. Hein.
Et ça, ça t'a dérangé?
Ben, si on avait pu l'empêcher, mais on peut pas. Tu peux pas refuser de vendre. Hein. T'as pas le droit.
Mais t'aurais préféré le vendre à des Blancs.
Bah oui, si on avait pu, mais... Bon, allez, arrête ton bordel, là, maintenant. Ça suffit. Tu vas me faire avoir des ennuis.
Mais non. Je sais pas si c'est le logo violet de France Culture ou cette mise en scène qu'on joue dans son salon. Moi, derrière un micro, pour lui faire raconter ce qui n'est pas censé sortir d'ici. Mais il a pas dit qu'il votera FN. En remontant dans ma voiture, je me suis demandé s'il allait repenser à notre discussion, le soir devant cette tartine, préparée des heures à l'avance. Est-ce qu'il peut changer d'avis? J'en sais rien. Le pire, c'est qu'il a pas toujours été comme ça. Il a pas élevé mon père avec ces idées-là. Son obsession pour les immigrés, je crois qu'elle lui est tombée dessus comme une maladie de vieux, à 70 ans. Personne sait pourquoi. J'aimerais pouvoir accuser les chaînes d'infos et cette xénophobie qu'on traîne depuis, allez, 15 ans. Je crois que c'est une histoire d'isolement. À force de vivre en marge et de plus rien comprendre au monde, il a fini par trouver des responsables. Je me demande comment il réagirait, s'il me voyait dans la vraie vie, rire avec des Noirs et des Arabes.
France Culture, les pieds sur terre.
Tu me fais visiter un petit peu le jardin?
Sans problème.
Mon grand-père et Nassor se sont déjà rencontrés, chez moi, en bas de l'immeuble. À chaque fois qu'ils venaient à Ris-Orangis, c'était pour des anniversaires ou un repas de Noël. Et à l'heure de sortir le chien, je sais qu'il a plusieurs fois croisé des membres de la famille Mushukiwa. Je suis quasi sûr qu'ils ne se sont pas parlé. Et c'est un peu dommage parce que Nassor est peut-être l'homme qui lui ferait changer d'avis. Ou au moins lui filer cet alibi qu'on a déjà entendu 1000 fois. Je suis pas raciste, je connais un Noir formidable.
C'est toi qui as planté tout ça?
Oui. Donc, des légumes.
Arrivé seul du Zaïre, il a économisé pour se faire construire une maison. Après 20 ans de béton, il a emménagé le mois dernier. Il y a un bout de jardin, tomates, un potager.
Il y a des potirons.
Ça doit être changé quand même. Hein.
Ah oui, oui.
Entre,
ça
change, hein, entre le béton à Ris-Orangis et...
Je me suis retrouvé en France en 1989. J'avais précisément 27 ans. Donc, arrivé ici, j'étais marié déjà. J'avais laissé ma femme auprès de la famille avec mes deux enfants à l'époque, Clarisse l'aînée et puis Delphin le deuxième, qui venait juste de naître. Delphin, je l'ai laissé, il avait un an à peine. Donc, arrivé ici, il a fallu absolument me battre pour que, dans un premier temps, ma famille arrive. Donc, il a fallu déjà régler les problèmes du séjour hein, pour être en règle, ainsi de suite. Et avec ces papiers-là, ben, j'ai trouvé tout de suite le boulot. Dans un premier temps, j'étais embauché dans une entreprise qui s'occupait des jardins. Et je me suis retrouvé à Ris-Orangis, j'avais déjà mon boulot. Et j'ai enchaîné tout de suite avec la première priorité de faire venir ma famille. Bon, les circonstances étant ce qu'elles étaient, l'instabilité politique au Congo... Il a fallu attendre en avril 1994 pour que mes enfants et ma femme arrivent. Mmh. Voilà.
Et oui, moi je me sens parce que Delphin, il est arrivé dans ma classe, en CE2.
Voilà, exactement. Il avait ton âge, donc les choses évoluant aussi d'une manière favorable. Je me suis retrouvé comme gardien d'école et j'ai occupé le logement de fonction. Et où exactement ta famille habitait, quoi. Voilà comment on s'est retrouvé. Je me rappelle très bien les jours du déménagement. On était très fatigué. Je n'ai jamais oublié cette date, le 28 mai 2004. L'appartement qu'on nous avait donné avait fait 2-3 ans inhabité.
Il n'était pas vivable.
Il n'était pas vivable du tout. Et il a fallu vraiment faire des grands ménages. Il a fallu que ma femme et mes enfants puissent vraiment, malgré la fatigue, se battre pour aménager une pièce où nous étions tous. Il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y avait rien du tout. Et c'est là que ta famille nous était un soutien considérable. Hein. Voilà, les cafés, l'été, les conseils avec papa. Nous étions bien encadrés par tes parents. Tout de suite, une amitié avec mes enfants, Delphin, Clarisse, Nassor. Voilà.
Leur appart, c'était un taudis. Les pigeons l'avaient ravagé. Il y avait des plumes et des fientes partout. Marie-Kaine était bébé. C'était impensable de les faire dormir là, serrés dans une seule pièce. Il n'y avait même pas le chauffage et l'électricité. Je me souvenais plus qu'on les avait aidés. Mais ça m'étonne pas de ma mère. Elle préférait filer son lit et aller dormir avec les pigeons que d'avoir une famille en galère au-dessus de la tête. Et mon père, bah pareil. C'est un sanguin qui devient dingue à la première injustice. Pendant longtemps, j'ai pas trouvé ça triste que Nassor se lève à l'eau pour balayer le sol. Je me disais qu'il avait pas de diplôme et que c'était mieux que le chômage. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, on s'est croisés à mon étage et je lui ai demandé d'où il venait comme ça, pour parler. Et il m'a raconté le pays, ses études de biochimie, ses projets de thèse en sociologie. J'en revenais pas. Sérieusement, un balai? On n'avait rien d'autre pour lui?
Ça t'a pas frustré d'arriver diplômé ici et ne pas pouvoir faire, entre guillemets, autre chose que le jardinage alors que t'avais les diplômes et la connaissance pour pouvoir peut-être devenir professeur ou pour mener des recherches en sociologie?
Ah, ça m'avait beaucoup frustré. C'est une situation à un moment donné invivable. Quand je me rendais compte que j'ai passé un bon nombre d'années d'études et me retrouver à faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon diplôme de licence en sociologie, ça m'a révolté. Mais je me suis dit que ce qu'il fallait chercher, c'est mettre en place une stratégie afin de pouvoir un jour m'insérer dans le système. Et c'est en ce moment-là que j'ai eu l'idée de pouvoir faire mon inscription à la faculté d'Evry, où j'ai fait ma maîtrise en aménagement et développement territorial. Voilà, donc avec l'idée que ça, c'est un diplôme qui pouvait un jour ou un autre m'aider à pouvoir trouver un travail qui correspond à mes études, quoi, voilà. Donc je viens de faire le jardinage, après je me suis retrouvé dans les travaux publics, et puis 12 ans en tant que gardien d'école. Bon, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours à la mairie d'Évry-sur-Angis, cette fois-ci au service vie de quartier, en charge des comités de quartier et des jardins partagés. Mais j'essaie quand même de trouver des passerelles entre ma maîtrise en aménagement et développement territorial et ce que je fais actuellement. Donc ça me sert toujours à quelque chose. Mais la frustration reste toujours dans la mesure où il est pratiquement difficile d'être considéré tel qu'on le serait au pays, c'est-à-dire au Congo. Parce que là-bas, je serais une grande personnalité, je serais socialement bien considéré, financièrement aussi bien installé, et donc mener une vie qui correspondrait à ce que j'ai compté, surtout pour entretenir ma petite famille, quoi. Donc c'est douloureux quand même la situation, mais c'est une situation générale, hein, parce que arrivé ici, j'ai des compatriotes qui sont des médecins au Congo, qui se retrouvent à faire le vigile, à faire des métiers qui n'ont rien à voir, hein, avec leur formation. Je m'étais dit, d'ailleurs, 3-4 mois après, vu ce que je voyais, après mon arrivée, je m'étais dit que voilà, je dois absolument rentrer pour essayer de vivre autrement, quoi. Mais à un moment donné, on se remet à la réalité. On compare le niveau de vie du pays d'où l'on vient et le niveau de vie du pays d'accueil. Moi, ce qui m'a convaincu de rester ici, c'est le fait d'être parent. Parce que je regarde ce qui se passe au Congo, combien le système d'enseignement est mal placé, simplement parce que les profs ne sont pas bien payés, la corruption qui bat son plein, et puis les niveaux d'études diminuant de plus en plus. Je pense que pour que mes enfants aient au moins un enseignement, une culture bien développée, il serait mieux que je me sacrifie moi-même ici pour que mes enfants puissent évoluer dans de bonnes conditions. L'avenir de mes enfants importe beaucoup plus, quoi. Leur réussite serait pour moi une joie. Alors je me dis, dans ce cas-là, autant assurer l'avenir de mes enfants et me sacrifier moi-même, il n'y a pas de problème.
Je me souviens quand tu travaillais à l'école, le matin, dès 6h du matin, tu sortais pour pousser les feuilles qui tombaient à l'automne, pour balayer devant la cour. Donc toutes ces tâches-là qui font que sans doute les gens, quand ils te croisent, n'ont absolument pas l'idée d'avoir à côté d'eux quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'engagé politiquement, qui a quitté son pays pour reconstruire une nouvelle vie. Tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui encore, peut t'énerver ?
Toujours, ça énerve. Quand les gens te voient faire ça, ainsi de suite, dans un premier temps, s'ils ne te connaissent pas, c'est qu'ils se disent que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de bagage. Voilà. C'est un métier dévalorisant. Il y en a qui m'ont vu comme ça, mais une fois qu'on s'est retrouvé sur d'autres milieux, dans des conférences, qui ont fini par changer l'idée. Hein. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Il faut échanger avec quelqu'un pour finalement se rendre compte de ce qu'il est réellement. Mais j'ai toujours l'impression que je suis obligé de m'expliquer ou de fournir 100 000 fois les efforts pour que finalement quelqu'un puisse voir en moi quelqu'un de mieux placé. Mais quoi qu'il en soit, la couleur de la peau, la provenance, il reste des critères qui font que d'apparence, on est toujours considéré comme les gens qui ne connaissent rien, comme les gens qui n'ont pas étudié, comme, toujours, toujours. C'est là que ça blesse. C'est pour ça que moi, je m'engage. Parce que je pense que c'est à travers mon engagement que je peux arriver à faire comprendre aux gens que la couleur de la peau, que le lieu de provenance ne sont pas des critères déterminants. C'est autre chose. C'est l'humanisme, c'est l'amour, c'est le partage. C'est le fait de considérer que l'homme noir, l'homme blanc ne constitue que l'homme. Il n'y a pas de race à partir de la couleur. Tu prends un blanc, tu prends un noir, tu le blesses, tu as le sang rouge. Pourtant, le sang reste un élément vital. Chacun a des yeux, chacun a une tête, chacun a des jambes. Comment se fait-il que 10 000 critères de ressemblance soient balayés par un seul critère qui l'a?
Est-ce que tu en as parlé avec tes enfants ? Est-ce que ça leur est arrivé de te demander « Papa, est-ce que je suis français ? Est-ce que c'est déjà arrivé ?»
On en discute beaucoup avec les enfants. Ils se posent la même question de savoir « Je suis français ou pas ?» Et à un moment donné, ils se sentent étrangers alors qu'ils sont français. Les enfants qui sont nés ici et qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Donc pour eux, ils sont français. Mais suite au discours anti-étranger qui se font, mes enfants m'interpellent beaucoup, et c'est dommage quand même qu'on puisse se remettre en question ce statut-là des Français. Ça pose problème quand même. Oui, ça pose problème. Ils ont l'impression d'être à la fois français et non français. C'est dommage parce que je pars de l'idée qu'il faut se sentir français pour défendre la France. Marquelle vient d'avoir ses 18 ans. Elle a aussi le droit de vote, et donc nous, toute la famille, vote. Et je tiens le bureau de vote toutes les élections et je continuerai à le faire. Parce que je pense que pour moi, c'est aussi une façon de mener le combat à mon niveau.
Mais ici, on est chez toi. Tu as déménagé il y a très peu de temps. Pendant des années, tu étais en immeuble à Ris-Orangis. Là, d'avoir un petit jardin, une maison, un potager, est-ce que tu as l'impression d'avoir réalisé ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire il fallait se battre pour avoir toujours un petit peu plus et encore un peu plus. Est-ce que ça en fait partie?
C'est exactement ça. C'est raison pour laquelle j'ai toujours considéré ma situation comme étant un détonateur. Donc il faut toujours se battre. Et ça, c'est un résultat d'un combat. Ça, c'est une grande satisfaction surtout. Je me dis qu'aujourd'hui, je peux mourir. Je laisse une trace à mes enfants. Ils se diront un jour que voilà, le papa s'est battu pour arriver à avoir ça. Je tiens beaucoup à mes enfants et je me battrai toujours, toujours, pour qu'ils puissent hériter de moi et tout ce dont je serai capable de faire tant que je serai en vie.
Yeah. She's in love with the concept, as if we're all just how she imagined. Cause we're in love, I just don't know yet. Well, tell me how am I supposed to see the magic? Cause I don't believe it no more. But I won't tell her, cause I always imagined it's easier if she thinks she won. So I'ma let her. And she said, I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. Girl, I don't think you know me at all. Cause I never thought I'd have to say this. No, I don't love you. And I never did. Look at us burning down in flames for kicks. But just know, I'm not singing for your ex, oh. I'm just singing cause it's over. Came and went like the summertime. Was that a sunset or sunrise? Looking back like where'd the time go? So much for trying to keep this moving slow. Cause I won't believe in her no more.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal de la France en colère. Premier épisode signé Mathieu Palin et réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Maurice Palin et à Nassor Muchu-Kiwa. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Des réactions, des commentaires à ce premier journal sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avons une page Facebook et un compte Twitter. On vous y attend nombreux pour partager éventuellement notre travail, si il vous a intéressé.